Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Vous écoutez Radion, il est 11h passé de quelques minutes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec notre invité Jean-Yves Boursier, que je salue et remercie d'être une fois de plus avec nous ce matin, dans cette fin de matinée, pour parler de son essai « D'Auxerre à Mauthausen et Prague, le voyage de Robert Simon dans le siècle ». Alors, deuxième partie de notre entretien autour de cette figure d'instituteur iconais, figure communiste. La semaine dernière, nous avons parlé en fait de ses origines sociales, de son cheminement idéologique, politique, d'abord socialiste, la désertion en septembre 1939, arrestation par les autorités militaires, et puis la difficulté pour ce Français, parmi tant d'autres, de se positionner dans cette France occupée, régie désormais conjointement par Vichy, le maréchal Pétain, et l'occupant allemand. Alors, effectivement, notre Robert Simon, on a parlé de ses aventures, mais c'est vrai que votre ouvrage est sous-titré « Le voyage de Robert Simon dans le siècle », on l'a dit, ce siècle qui a commencé avec la guerre de 14, la révolution russe de 1917 et qui se termine en 1990 par l'effondrement du bloc soviétique. Eh bien, Robert Simon va rejoindre dans un premier temps le réseau gaulliste d'Astar dès septembre 1941. Il n'a pas encore adhéré au Parti communiste. La vraie difficulté aussi, Jean-Yves Boursier, vous l'écrivez dans votre ouvrage, c'est qui est l'ennemi? Il faut identifier l'ennemi. Qui est l'ennemi désormais en France en 1941? On sait qu'en 1943, des groupes FTP où d'autres résistants vont s'attaquer notamment à des membres de la milice. Mais en 1941, le pays fonctionne avec une autorité judiciaire. Les fonctionnaires sont en place, fonctionnaires de police, restent fidèles à l'État français. Qui est donc l'ennemi?
Tout semble continuer comme avant. C'est le principe même du vichysme et du pétinisme. Et donc la France est abattue et quelques personnes comme Simon cherchent, comme il l'explique, à se ressaisir et à trouver des contacts. Alors il va trouver, ce qui va le sortir de cet isolement et l'amener à des positions de lutte frontale contre l'occupant allemand, c'est la rencontre avec un de ses vieux copains du temps du PSOP, des socialistes de gauche, Laverdé.
Alors, le PSOP, Parti Socialiste Ouvrier et Paysan.
Qui s'était liquéfié en 40, mais il retrouve Laverdé. En fait, c'est Laverdé qui le retrouve, parce que Laverdé est chargé de mission par Londres, par les gaullistes, qui envoient des missions dans tous les milieux. Pardon. Et là, c'est une mission qui a pour charge de joindre des anciens socialistes, des socialistes de gauche, etc. Et donc, il retrouve Simon, comme ça, qui est un des rares anciens membres du PSOP, encore comme ça, quoi, disponible. Il y a un groupe du PSOP qui sera extrêmement actif, c'est dans la région lyonnaise. autour d'un journal qui s'appelait L'Insurgé. Bon. Mais dans la région parisienne où Simon avait émigré, puisqu'il était dans la région parisienne, où il travaillait sur des chantiers du comité de lutte contre le chômage, l'organisme vichiste, eh bien, la VRD, en fait, embauche Simon dans son réseau, qui est un réseau gaulliste. C'est la mission d'Astar. C'est une mission du BCRA et les services spéciaux de Londres, enfin de gaullistes. Et là, il commence à faire des transports d'armes pour d'Astar dans la région parisienne.
Alors, il faut aussi quand même se représenter la difficulté de se lancer. Bon, dans la clandestinité, ça on peut le concevoir, mais se lancer aussi dans le combat armé quand on a été pacifiste et que l'on a déserté l'armée française.
Alors, lui,
c'est paradoxal.
C'est absolument paradoxal, mais il faut franchir le pas. Mais quand, pendant des dizaines d'années, le pacifisme a dominé les milieux populaires en France, il est très difficile d'expliquer après qu'il faut passer à la lutte frontale contre l'occupant. Et effectivement, ça ne va pas être facile pour des gens comme Simon et d'autres de trouver des personnes pour agir. Alors, au début, il ne s'agit pas d'action armée, il s'agit de transporter des armes. Et c'était le système des réseaux. On prépare la suite, on fait des parachutages, on prend des contacts avec des groupes dispersés ici et là. Bon, par exemple, la VRD, là, le copain de Simon, avait contact avec un réseau jusque dans la Nièvre, etc. Bon, voilà, bon, c'est des ramifications en réseau. Mais il n'est pas encore question d'action armée fin 41, début 41.
En fait, il y a très peu de personnel, très peu d'éléments humains, très peu d'armement. C'est là aussi. Par exemple, Simoneau, dans le Morvan, au début, ramasse des armes, sans Simoneau, trop bien savoir quoi en faire dans
Simoneau
un premier temps.
Simoneau a fait son dépôt d'armes.
Oui.
Bon. Problème, de toute façon, pour s'attaquer à une armée comme la Wehrmacht, qui est au sommet de sa puissance, on imagine un peu le rapport de force avec quelques grenades et quelques revolvers.
Même si ce sont des grenades anglaises à fragmentation un peu plus tard. Par exemple, vous rappelez qu'un des premiers parachutages dans Lyon, c'est le 22 novembre 1942. C'est un parachutage d'armes et d'émetteurs dans la forêt au Duc à Carré-les-Tombes.
Alors ça, c'est un parachutage des gaullistes pour la direction communiste qui est à Paris, Duclos, etc. Avec des postes émetteurs. Il y avait 6 postes émetteurs.
Alors il va y avoir quand même quelques coups durs réalisés par l'équipe de Robert Simon. Je pense à l'attentat contre la salle de restaurant de l'hôtel Bedford, dans le 8e arrondissement à Paris.
Je vous prie de m'excuser, je vous coupe. Il passe d'abord au groupe armé du Parti communiste.
Oui.
Il est dans la mission La Verdé. Mais il a le contact avec Jacquot, qui est un ancien commissaire des Brigades internationales en Espagne, qui était un des premiers chefs de l'organisation spéciale du Parti communiste en zone nord. Et c'est Jacquot qui le fait adhérer au Parti communiste en début 42.
Janvier 42.
Et Simon se rallie à la vision que ces communistes ont, c'est-à-dire l'action immédiate contre les Allemands et contre les traîtres. Donc, effectivement, les actions, ça va être des actions très simples, hein, de lancer des grenades dans des restaurants de soldats allemands, ou alors des sabotages, comme par exemple le sabotage des pilotes de Saint-Assise dans la grande banlieue parisienne. Voilà.
Alors, il y a cette activité, bien sûr, armée de Robert Simon, qui ne va pas durer, puisqu'en fait, il va être dénoncé par son chef.
C'est plus compliqué.
Oui.
Ce sont des petits groupes. Il y a très peu de monde qui est engagé. Et ces groupes vivent assez en milieu clos, se connaissent, etc. Les mesures de sécurité sont pas toujours... sont plutôt très difficiles à appliquer. Et lorsque le groupe tombe, c'est le groupe en entier. Alors, son chef de groupe a parlé, entre guillemets, c'est l'expression, il a parlé, mais de toute façon, il aurait été arrêté. Pas un seul n'a réchappé de l'arrestation. Parce que la police de Vichy est une police politique extrêmement professionnelle, qui a l'habitude... qui a des fiches. Un certain nombre de ces militants étaient déjà fichés avant-guerre. La toile d'araignée est vite identifiée. Et une fois qu'elle est identifiée, il y a la rafle et l'arrestation. Bon, après, c'est les salles de torture des brigades spéciales des renseignements généraux.
Oui, c'est la police française, les renseignements généraux, qui arrêtent ces résistants communistes.
Hein, absolument.
Pour les livrer ensuite aux Allemands.
Ils les livrent aux Allemands après. Mais et ils sont torturés par ces gens-là, quoi. Maintenant, c'est quand même assez connu que la police de Vichy a été extrêmement active au service de l'occupant, que ce soit pour pourchasser les communistes, pour pourchasser un certain nombre de résistants et pour rafler les juifs. C'est quand même la police de Vichy qui a organisé la rafle du Veldiv.
Oui.
Bon. Et là, le groupe Valmy, puisqu'il s'appelle le groupe Valmy, auquel appartient Simon, a été entièrement arrêté par les gens des brigades spéciales, DRG.
Alors, Simon est arrêté le 26 octobre 1942. Le 12 novembre 1942, les policiers français remettent Robert Simon et d'autres membres du détachement Valmy, donc FTP, communiste, aux Allemands, et commence la déportation. Robert Simon et ses camarades sont envoyés à Mauthausen. C'est en Autriche, c'est un camp.
Oui, alors, déjà,
oui,
ils sont emprisonnés à Fresnes pendant plusieurs mois, où la prison de Fresnes était sous contrôle allemand. Toutes les prisons n'étaient pas sous contrôle allemand. Celle-ci était sous contrôle allemand. Ensuite, ils sont envoyés au fort de Romainville, dans une casemate, où là, ils vont être expédiés dans ce qu'on appelle un transport à Mauthausen. Voilà. Mais c'est ce que j'explique. De l'arrestation jusqu'à la casemate, on ne sait pas où ils sont. Les familles ne savent pas où ils sont. C'est véritablement un des aspects de la terreur d'État, c'est-à-dire organiser la disparition des gens. Des choses qu'on a vues en Argentine il y a quelques années. La disparition, les gens sont effacés. Et donc, après, ils les retrouvent et ils savent qu'ils sont par des réseaux. Ils arrivent à faire passer des vêtements, à faire passer un peu de nourriture. Et là, ils sont déportés.
Alors, les membres, les compagnons, les camarades de Robert Simon, qui appartenaient donc au détachement Valmy FTP, francs, tireurs et partisans, donc d'obédience communiste, 45% d'entre eux sont morts en déportation.
Absolument.
Robert Simon est un survivant de la déportation.
Absolument, dans très mauvais état. hein, puisque il a vécu les expériences alimentaires que les nazis faisaient sur des déportés. Donc ils avaient une expérience alimentaire sur une alimentation pour l'Est, pour l'armée, et ils ont plusieurs qui sont morts. Et il était, il avait le système digestif délabré, quoi. Bon, il a survécu.
Oui. Alors, Robert Simon est à Mauthausen du 27 mars 1943 au 9 mars 1944, puis ensuite il est transféré à une centaine de kilomètres au camp d'Ebensee.
Oui, d'Ebensee, qui est une annexe du grand camp Mauthausen, et que dans une région montagneuse et froide, puisque quand il arrive, ils ont de la neige, enfin bon, c'est... Mais... Déjà, quand ils vont à Ebensee, ils ont déjà appris du système concentrationnaire. Ce que Germaine Tillon appelle, elle appelle la science des camps.
La science carcérale.
La science, oui. Ils ont appris à survivre. Par exemple, Simon, quand il explique que... l'exemple qu'il donne des mineurs qui étaient à la carrière de Mauthausen, où les mineurs, comme au boulot, au fond de la mine, piochent, et à un moment donné s'arrêtent parce qu'ils font la pause. Et là, les SS les voient s'arrêter et descendent et les massacrent à coups de manches de pioche. Alors que Simon explique qu'il fallait observer que... au-dessus de la carrière et faire semblant de travailler.
Donc, et il y a plusieurs nationalités avec lui. Hein. Il y a des Polonais, il y a des Russes.
Bon, d'abord, il y a les Espagnols.
Il y a les Espagnols, effectivement.
Parce qu'à Mauthausen, les premiers... il y a des politiques autrichiens, c'est-à-dire des communistes et des antifascistes autrichiens. Hein. Mais il y a beaucoup d'Espagnols qui ont été livrés par la France aux Allemands. Et c'est les fameux triangles bleus. Et alors, ils sont déportés depuis les premiers. Et donc, ils ont une organisation clandestine dans le camp, comme les communistes allemands.
Alors, justement, on va marquer une première pause musicale et puis nous parlerons justement de ce pouvoir clandestin qui s'organise subrepticement dans le camp, où les conditions de vie sont liées finalement à la survie, surtout. Hein. Je rappelle que notre invité aujourd'hui dans Wagon Livre est Jean-Yves Boursier, qui signe aux éditions du Crocan d'Auxerre à Mauthausen et Prague Le voyage de Robert Simon dans le siècle. Nous nous retrouvons dans une poignée de minutes avec notre invité, c'est Wagon Livre, et nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion.
Quand le désert avance, c'est la vie qui s'en va. La faute a pas de chance, ou Dieu qui nous fout droit. Et le désert avance, plus personne n'y croit. C'est notre déchéance, l'impossible combat. Quand le désert avance, que veux-tu que l'on soit? Les femmes tout avec danse, elles-mêmes n'y croient pas. Dans leurs souvenirs d'enfance, les chasseurs étaient là. Mais le désert avance, le sable devient roi. Et c'est notre souffrance qui coule entre nos doigts. Dans ces dunes immenses, qui donc y survivra? Mais toi qui viens de France, où l'on oublie qu'on boit, dis-leur ce que tu penses, dis-leur ce que tu vois, dis-leur quelle est leur chance, et qu'ils ne la voient pas. Et qu'on meurt d'impuissance, mais qu'on garde la foi. Que le désert avance et l'eau n'arrive pas sans cette délivrance. d'affreuses urgences et que c'est sur nos tombes que le désert avance.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Jean-Yves Boursier, alors effectivement, nous l'avons dit, notre Robert Simon, militant communiste arrêté, torturé par la police de Vichy, livré aux Allemands, se retrouve donc au camp de Mauthausen en Autriche. Et justement, j'aimerais que vous évoquiez ce dont vous parlez longuement dans votre ouvrage. J'aimerais que vous parliez de ce pouvoir clandestin et de d'une organisation communiste qui se met en place. Alors, avec des solidarités différentes dans le camp, une hiérarchisation aussi liée aux nationalités, notamment. Comment ça se passe ?
Alors, l'expression n'est pas de moi, pouvoir clandestin. L'expression est d'un déporté. Si mes souvenirs sont exacts, ça doit être l'abbé Vendroux. Qui parle de ce pouvoir clandestin. Une organisation est mise en place. Et ce que je montre, c'est que dans les pires moments et dans la plus grande adversité, l'organisation communiste survit. C'est-à-dire que face à la terreur d'État, le parti se maintient. Et l'objectif est de maintenir le parti en vie. Parce que c'est ce qui permet de tenir un certain nombre de militants. Et donc cette organisation, elle est par nationalité. Il ne faut pas croire que c'était si simple. Les Allemands, les communistes allemands avaient leur organisation. Les communistes français avaient la leur. Hein. Les Espagnols avaient la leur. Et donc, il y avait des liens, mais c'est une organisation qui est petite. C'est quelques dizaines de personnes dans un camp de plusieurs milliers. Alors, pouvoir clandestin, il est évoqué, ce pouvoir, parce que... quelle est la bagarre ? La bagarre, c'est... d'éliminer les vers, c'est-à-dire les droits communs qui sont mis en place dans les organismes du camp par les Allemands, de les éliminer et de s'installer à leur place. C'est-à-dire, c'est un combat permanent entre les politiques et les vers. Alors, dans certains camps, par exemple à Buchenwald, les communistes avaient réussi à prendre des positions importantes dans le camp. Hein. À Mauthausen, les Verts ont toujours gardé la main, même si, à tel et tel endroit, ils arrivaient à placer quelqu'un en raison de ses compétences, par exemple... un personnage important, Bartha, qui est un communiste tchèque, il est interprète parce que les entreprises allemandes qui ont besoin de la main-d'œuvre des camps et qui les font travailler dans les tunnels notamment, ont besoin d'interprètes. Et Bartha parlait plusieurs langues. Donc il avait une place d'interprète, ce qui lui permettait de pouvoir installer un autre endroit, et ainsi de suite. C'est comme là, Simon s'est retrouvé dans un commando de latrine qui était contrôlé par les Espagnols républicains, et après, ils lui ont donné une place dans ce commando, qui était une place stratégique, parce qu'on pouvait diffuser des informations, on pouvait mettre au repos certaines personnes, etc. C'est comme ça que... mais ce n'est pas un vrai pouvoir, ni même un contre-pouvoir, puisque les nazis et les verts ont toujours eu la main sur ce qui se passait dans le camp.
Alors, Mauthausen, c'est la première étape de déportation pour Robert Simon et ses camarades. Le 9 mars 1944, il est transféré dans un autre camp, qui est plus un camp de travail, camp d'Ebensee.
Ce sont tous des camps où il y a des ateliers, par exemple.
Oui, on travaille pour les industries allemandes, pour l'effort de guerre.
On travaille pour les industries
allemandes. À Ebensee, on construit les fameux fusées V. Hein.
Oui, on travaille dans les tunnels, qui sont des tunnels pour résister aux bombardements alliés, qui bombardaient les camps. Et donc, d'ailleurs, à la fin, Simon et les autres n'ont pas voulu rentrer dans les tunnels parce qu'ils estimaient que les SS feraient sauter les tunnels et eux dedans.
Alors, ce n'était pas de la résistance, mais en tout cas,
c'est quand même...
C'est un refus d'obéissance.
Un refus d'obéissance, c'est de la résistance, quand même.
Face au commandant du camp.
Bah oui. Mais...
Les Allemands étaient aux abois. Ils savaient que la guerre était perdue. On est
terminé.
Début mai 1945.
Non, c'était terminé.
Oui.
Mais les déportés n'ont jamais... ne se sont pas libérés eux-mêmes.
Ce sont les Américains qui libèrent le camp. D'ailleurs, Ebensee, vous l'écrivez, a été un des derniers camps libérés par les Américains. Je crois que c'est le 6 mai, c'est ça.
Absolument.
6 mai 1945.
Oui. Donc, les Américains arrivent et ils reviennent le lendemain.
Mais parce qu'ils sont effrayés par les semi-cadavres qu'ils voient dans le camp.
Mais tous les jeunes GI qui ont fait le débarquement et qui sont arrivés dans les camps, ont été effrayés par ce qu'ils ont vu. C'est quelque chose qui était innommable. Les Américains sont revenus le lendemain et vont dans un grand désordre parce que... C'était compliqué avec des gens qui étaient affamés.
Sans doute malades, dysenterie, oui. Typhus.
Mais je reviens à ce que vous avez dit. J'ai dit que 45 à 46% des membres du Valmy, du détachement Valmy
FTP.
Auquel appartenait Simon, sont morts en camp. C'est le pourcentage dans les camps et ils ont eu le même pourcentage que les autres, qu'ils soient communistes, organisés ou pas organisés. Cela dit, il valait mieux être organisé que pas organisé pour survivre.
On reprend notre conversation avec notre invité Jean-Yves Boursier, professeur honoraire des universités, aujourd'hui à la retraite, hein, mais vous avez été professeur d'anthropologie,
oui.
Avec une formation initiale de géographe.
Absolument, mais c'est une retraite très active.
Très bien, et effectivement, le fruit de ce travail très long au contact de Robert Simon jusqu'à sa mort. Hein. Robert Simon, je rappelle, est né en 1909 à Noyers-sur-Serein, dans l'Yonne donc, et mort en 1998 à Auxerre. Le titre de l'essai de notre invité, d'Auxerre à Mauthausen et Prague, le voyage de Robert Simon dans le siècle, c'est aux éditions du Crocan. On se retrouve dans une poignée de minutes.
En voyant naître cet enfant, je voyais du fin fond des siècles tous mes ancêtres, tous mes parents dans ce petit corps renaître. Je revoyais leur maison, aujourd'hui en démolition, et les buildings qu'essayaient de nous la faire oublier. Par quel hasard ce bel enfant a survécu à toute guerre, guerre de Troie, guerre de Cent Ans, échauffourée meurtrière, par quelle fissure du temps s'est-il glissé jusque maintenant, défiant la mort, le fer, le vent, Hérode et les tueurs d'enfants. Que le vent souffle d'Afrique, qu'il souffle du nouveau monde, ce sont fusils qui crépitent, bazooka, pampan qui gronde, échapperons-nous, dites-moi, à cette grande radia. Mon enfant vient dans mes bras, fais dodo tout contre moi. Toi qui cherches, toi qui doutes, la vérité s'étiole à la croisée de cette route. Y a le nouveau dieu pétrole, on sacrifie sur l'autel des petits enfants à l'appel. Le monde fait harakiri, Babel fait Florence aujourd'hui. Le trac du monde se détraque, je ne sais quelle partie prendre face à la grande mitraque d'un monde malade à pierre fendre. J'essaie vite en cachette avant qu'on ne coupe l'herbette de bâtir une maison sur le sable de mes chansons.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous évoquons le parcours d'un résistant communiste aujourd'hui dans Wagon Livre. Il s'agit de l'instituteur iconaire Robert Simon, qui était né en 1909 à Noyers-sur-Serein et qui est mort en 1998 à Auxerre. Notre invité Jean-Yves Boursier pour son essai d'Auxerre à Mauthausen et Prague, le voyage de Robert Simon dans le siècle. Alors Jean-Yves Boursier, bien sûr, on est obligé de dérouler assez rapidement la carrière et le parcours politique de l'homme qui nous intéresse, Robert Simon. Alors effectivement, il est libéré des camps, il revient en France, on est obligé de passer un peu vite. C'est un homme qui, en tout cas, passera de l'appareil local à l'appareil central et même à l'appareil international du Parti communiste. En 1953, c'est vrai qu'il a exercé longtemps comme journaliste à Paris, journaliste politique, à la tête même d'un journal.
Non, c'était dans Lyon.
Dans Lyon.
Il était directeur du Travailleur, le journal communiste de Lyon. Lyon.
Voilà. Mais il aurait aimé continuer cette carrière plutôt que de retourner derrière le bureau d'instituteur.
Je pense que sa vocation était de continuer dans le journalisme. Mais après, il a continué à la revue du Conseil mondial de la paix. C'est pour ça qu'il y a Prague, parce qu'il était souvent à Prague et dans les pays de l'Est pour la revue du Conseil mondial de la paix au moment où, en pleine guerre froide, où la défense de la paix était un des grands mots d'ordre du Cominform.
Alors qu'elle est créée en 1948.
Oui. Et donc, là, il a fait beaucoup de voyages. Il était éloigné de Lyon.
Alors, il y a aussi des aspects passionnants dans votre livre. On n'aura malheureusement pas l'occasion d'en parler, mais vous revenez sur l'épuration, la contre-épuration, le climat détestable de cette France de la libération, où effectivement, il y a des suspicions, on s'accable, on est parfois résistant sans l'avoir jamais été. Il y a de la fausse résistance, des faux maquis, des gens.
Il y a surtout la restauration de l'ordre ancien.
Voilà.
Et c'est ce que Simon explique, notamment avec l'exemple de déportés qui étaient des gens de, entre guillemets, de droite, qui ont été déportés à Mauthausen avec lui et qui pensaient que les choses auraient changé dans Lyon et qui, en fait, sont devenus des notables à leur tour par la suite.
Ce qui d'ailleurs lui... Alors, je ne sais pas si c'est vous ou lui qui écrivez « L'épuration était dure pour les sous-fifres et douce pour les riches, les puissants qui étaient relâchés ou bénéficiaient d'attestations diverses ». Là aussi, il y a un souci de justice et de vérité de Robert Simon qui, toute sa vie, a quand même combattu, défendu des familles, parfois injustement accusées. Enfin, il y a un climat absolument délétère. C'est ça, vous l'expliquez très bien.
C'est Simon qui parle votre citation.
C'est lui qui dit cela.
Effectivement, rapidement, 2 ans après la guerre, les lois d'amnistie successives ont fait que un certain nombre de personnes sont revenues aux affaires.
Oui.
Bon, et qu'il n'y a pas eu véritablement de changement, et même un certain nombre de résistants ont été pourchassés après-guerre par la justice. Bon. Mais...
Oui, l'affaire Philippot, par exemple, mais on n'a pas le temps d'en
parler.
Par exemple. Enfin, en tout cas, vous, il y a des pages absolument passionnantes où vous expliquez, alors bon, vous expliquez que le président Vincent Auriol est venu à Auxerre inaugurer le monument aux morts de la déportation le 3 avril 1949, mais vous parlez aussi d'élection du maire d'Auxerre, Jean Moreau, alors lui aussi victime d'attaques très violentes de la part de Robert Simon.
Mais...
Franchement, en termes de liberté de la presse, on n'y va pas avec le dos de la cuillère à l'époque. Hein.
Ah non, Simon avait une plume extrêmement affûtée et le maire d'Auxerre avait été constitué comme cible parce qu'il avait été mis en place par Vichy. Et surtout, ce que Simon voyait, c'est que il était parti en déportation... alors que ce personnel politique était en place et il revient de déportation et le personnel politique est toujours là. Donc, d'ailleurs, il explique aussi qu'à l'hôtel Lutetia à Paris, les déportés arrivaient et souvent c'était des policiers ou des gendarmes qui les avaient arrêtés quelques fois auparavant. Bon, donc, il n'y a pas de... d'épuration véritable de l'appareil d'État. Quand je dis l'appareil d'État, y compris de ses élites.
Oui, vous parlez du monde de la justice, oui. Les magistrats sont restés en place.
Épurer, ça ne veut pas dire procéder à des exécutions, etc. Épurer, ça veut dire mettre à l'écart.
Enfin, Thorez, le 21 juillet 1945, déclare à Vasier « On ne peut pas épurer pendant 107 ans ».
Absolument. Mais ça a été la ligne du Parti communiste, puisque Thorez était au pouvoir. Donc il fallait que les communistes se calment sur la question d'épuration.
Alors, vous parlez aussi de l'ex-préfet de Lyon, Joseph Bourgeois, ouais. Du commissaire Grégoire, des ouais. renseignements généraux. Bon, on n'a pas le temps d'en parler,
non.
Malheureusement. Mais il faut dire aussi que Robert Simon, lui... ont fait ressurgir de son passé sa désertion. Alors,
absolument.
Lui aussi est victime d'attaques très violentes.
Alors, il est victime d'attaques sur sa désertion et il peine à se défendre pour une raison très simple, c'est que Thorez, qui a déserté, est au pouvoir et qu'il était hors de question à l'intérieur du Parti communiste à cette époque d'accepter l'idée de dire que Thorez avait déserté.
Et Robert Simon reçoit donc peu de soutien.
Robert Simon,
à cause d'un ministre communiste, Thorez, qui lui-même a déserté pendant la
Seconde
Guerre mondiale.
C'est une situation complexe.
Alors, il faut parler tout de même de la poursuite de l'engagement politique au sein du Parti communiste français dans Lyon de Robert Simon, parce que finalement, le Parti communiste a été au pouvoir jusqu'en 1947. En France, et puis dans Lyon aussi, le Parti communiste avait tout de même des bastions assez solides.
Il avait des bastions solides, il avait des élus, enfin des bastions, il avait, pas vraiment, il avait, ça n'a jamais été comme dans la région parisienne, ou même dans la banlieue de Nevers, avec les municipalités communistes autour de Nevers. Et même Nevers a eu un maire communiste avec Marcel Barbeau. À Libération. Mais
il y a beaucoup de problèmes quand même dans ce parti communiste.
Non, le problème,
il y a des luttes de personnalité, Lyon, il y a des haines.
Il y a dans la Fédération communiste de Lyon des problèmes récurrents, bon, propres à Lyon, c'est-à-dire des questions de personnes, à tel point que, je cite des rapports. Ou un tel est dénoncé parce qu'il utilisait la voiture de la Fédération, un tel autre, enfin bon. Mais des histoires...
un peu saugrenues, oui.
Un climat absolument détestable qui fait que, au bout d'un certain temps, la direction centrale a décidé de mettre un groupe de jeunes au pouvoir pour... Ça a permis de mettre de côté les anciens et puis de repartir sur des bases avec des jeunes qui étaient plus facilement dociles. C'est là qu'étaient mis en place Cordillo et Lavra.
Alors Jean Cordillo, qui sera député communiste, et puis Guy Lavra, qui fut un temps, enfin longuement quand même, maire de Migennes.
Oui, alors ces deux jeunes n'étaient pas résistants, et donc ils ont été mis en place par la direction centrale de Paris. Hein, on a tous les rapports aux archives du Parti communiste qui ont été déposés à Bobigny. Il y a tous les rapports sur Lyon, notamment. Et ils ont été mis en place, donc ils sont beaucoup plus dociles que les anciens.
Alors, Robert Simon va être exclu du Parti communiste français en 1970. Rapidement, Jean-Yves Boursier, pour quelles raisons Robert Simon n'est-il plus le bienvenu au Parti communiste?
Alors, il a été le bienvenu, il est revenu dans Lyon en 1953. Il a été le bienvenu jusqu'en 1959, puisque dans les rapports internes de la direction nationale, il est marqué qu'il faut le promouvoir au comité fédéral, etc. Donc, mais à partir de 1959, il passe dans l'opposition interne. C'est-à-dire, il est comme un certain nombre de militants, très sensible à ce qui s'est passé avec le rapport Khrouchtchev en 1956, avec ce qui s'est passé en Hongrie, et tous les débats internes, notamment avec les débats lancés par les communistes italiens. Et donc, il véhicule un certain nombre d'éléments de ces débats. Et d'ailleurs, on lui reproche, en 1961, pour le mettre déjà à l'écart, d'avoir fait de la publicité pour le livre de Boffa, Les communistes italiens, qui était très mal vu par la direction torrésienne, enfin du PC. Bon, donc il est dans une opposition interne et la crise, enfin les événements de 68 vont précipiter
Alors, il y a mai 68 en France, mais il y a les événements, donc le printemps de Prague.
Alors, il y a mai 68 en France. Et puis, il y a le printemps de Prague où des gens comme Simon soutiennent les Tchèques publiquement.
Alors, en fait, il faut rappeler quand même que les troupes du pacte de Varsovie vont mater une rébellion de Tchèques
communistes. Tchèques.
Tchèques. Contre la mainmise, en fait, soviétique.
C'est-à-dire, la ligne du parti communiste tchécoslovaque ne convenait pas, donc on envoyait les chars soviétiques. Bon. Et
Robert Simon, donc,
Robert Simon,
soutient la rébellion.
D'abord, Robert Simon connaissait bien les communistes tchécoslovaques à Mauthausen.
Dans les camps, bien sûr.
Ah oui, il connaissait London. Et ce qui a précipité son exclusion, parce que la direction locale a hésité longtemps avant de l'exclure, parce que bon, il avait de l'influence, etc., puis c'était une grande figure, déporté.
Instituteur, apprécié des jeunes également.
Et non, mais surtout, la figure du déporté au sein du parti, c'est quelque chose de très important à l'époque. Et donc, ils ont hésité, mais là, ils publient dans Lyon républicaine un article de soutien au Tchèque et à London, c'est une déclaration de guerre. Donc là, l'exclusion est mise en marche. Et alors après, on trouve les motifs divers et variés.
Alors, il est un des fondateurs du comité du 5 janvier pour une Tchécoslovaquie libre et socialiste. Oui, effectivement, il prend le risque de ne pas suivre la ligne officielle du Parti communiste français. À partir du moment où on ne suit plus la ligne du parti, on devient renégat.
Ah ben absolument.
Ben, c'est ce que j'ai compris, en fait. Mais et puis ce qui est incroyable, c'est que vous montrez que même le parti peut s'immiscer dans la vie privée des militants. Une sorte même de police des mœurs, parfois.
Dans les rapports de la section des cadres, c'est très intéressant parce qu'il y a des rapports qui portent sur la vie privée des gens.
Oui.
Mais c'est la gestion du personnel, en quelque sorte, le service des cadres. On gère le personnel qu'on va placer à telle place dirigeants, etc., etc.
Alors, lorsqu'il est exclu, je cite hein, ce qui est écrit, « Robert Simon, qui menait désormais publiquement campagne contre la politique du parti et se livrait à une activité de désagrégation et de sape, tant par le truchement de la presse bourgeoise que par celui d'un bulletin dirigé par des renégats et des exclus, a été exclu publiquement en octobre 1970. »
Voilà.
C'est et comment a-t-il vécu, lui, cette exclusion, quand vous le rencontriez?
Alors,
ça lui passait au-dessus de la tête ou c'était blessant?
Non, non,
blessant.
Mais de toute façon, Simon menait la bagarre interne au sein du Parti communiste, donc il savait qu'il allait être exclu un jour ou l'autre. Je ne pense pas qu'il ait imaginé un instant réformer le parti de l'intérieur. Bon, ils étaient un certain nombre à le penser, à le dire, mais au fond d'eux-mêmes, je ne suis pas sûr qu'ils y aient cru jusqu'au bout. Et donc, l'hypothèse d'être exclu, ils le savaient à l'avance. Alors, ça a été retardé, hein, ils ont essayé de le mettre à l'écart, etc., mais de circonscrire la dissidence sur Auxerre. Et puis après, bon, bah, après 68, c'était plus possible. Et donc... Mais il n'est pas resté grand monde. Ils ont perdu beaucoup d'adhérents sur Auxerre, notamment chez les instituteurs, parce qu'il avait beaucoup de gens avec lui, des figures comme Auger, par exemple. Qui était très connu dans les patronages laïcs, dans les... Vous voyez ? Mais il est parti sur autre chose après.
Oui. Alors, on marque une dernière pause musicale, si vous le voulez bien, Jean-Yves Boursier, vous qui êtes aujourd'hui notre invité. Je rappelle que vous signez d'Auxerre à Mauthausen et Prague Le voyage de Robert Simon dans le siècle, c'est aux éditions du Croquant. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la conclusion de notre deuxième partie d'émission consacrée à cet instituteur iconais, grande figure communiste dans le département de l'Yonne. Nous revenons juste après la petite virgule musicale que nous vous proposons.
Thank you.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous l'avons dit, Jean-Yves Boursier, vous qui signez d'Auxerre à Mauthausen et Prague Le voyage de Robert Simon dans le siècle aux éditions du Crocan. Robert Simon est exclu du Parti communiste français le 13 novembre 1970. Alors, par la suite, vers quel parti politique Robert Simon s'est-il rendu ?
Oh, il est revenu au Parti socialiste, mais sans vraiment comme ça, sur la marge. Non, après, Simon était dans ses livres et dans ses écrits, sous une avalanche de papiers qui recouvrait son bureau, où il noircissait du papier. Voilà. Et puis je pense qu'il réfléchissait un peu à sa vie.
Et comment a-t-il vécu l'effondrement du bloc soviétique ?
Je pense qu'il s'y attendait. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a sauté au plafond de joie. Hein. C'est un fait, voilà. Et c'est aussi l'aboutissement d'une histoire, l'effondrement du bloc soviétique. C'est-à-dire que l'hypothèse d'un État socialiste a été saturée. Et on voit ce que ça a donné, l'État socialiste. Cela dit, ce qui est intéressant dans l'itinéraire d'un homme comme Simon, comme d'autres, c'est que le siècle tel que je l'entends, ou Hobsbawm ou Badiou l'entendent, c'est-à-dire cette courte période, c'est la période pendant laquelle le communisme a été la grande cause. Et je pense que c'est ce qui reste, malgré ce que disent un certain nombre de gens.
Malgré le livre noir du communisme, les purges, les grands procès staliniens.
Oui, mais d'accord, mais c'est pas pour autant que ça n'a pas été la grande affaire du siècle.
Ça a été un idéal politique, bien évidemment.
Ça a été une politique, d'abord. C'est-à-dire qui commence par la révolution russe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait face à la guerre. Et alors, les bolcheviks, face à la guerre, ont une politique. Et oui, c'est d'organiser la révolution, c'est ce qu'ils vont faire. Bon. Donc après, évidemment, il y a dans cette période le modèle parti. C'est-à-dire que c'est la tentative d'organiser la politique par un parti qui va être normé par Staline, et c'est ce qui va être le stalinisme, pendant des dizaines d'années. Et tout cela s'effondre. Donc alors, il faut essayer de réfléchir aux mécanismes internes, à cette période, comment ces gens s'inscrivaient dans leur époque. Et moi, je pense que c'est ce que je dis, Simon a été pleinement de son temps. C'est comme ça que je le prends.
Juste une phrase aussi très intéressante, parce que vous vous êtes beaucoup intéressé, que ce soit pour Armand Simoneau, ce bûcheron du Morvan, premier FTP dans le département de l'Yonne, et également Robert Simon, qui rejoint le camp FTP en adhérant aussi au Parti communiste des 42. Il y a aussi toute cette réécriture mémorielle du parti, c'est-à-dire qu'en fin de compte, finalement, certains résistants vivants posaient problème.
Et effectivement, la martyrologie va être très utilisée. D'ailleurs, le parti des 75 000 fusillés, alors qu'il y a eu énormément de morts au combat et puis de fusillés, mais il n'y a pas eu 75 000. Bon. Mais il y a eu cette volonté de maîtriser le récit sur la résistance, par exemple. Mais dans tous les départements, dans l'Yonne, par exemple. Il faut voir. Alors, Simon a bagarré avec un certain nombre de communistes du département sur l'écriture de la résistance dans l'Yonne. Il y a des échanges de lettres très nombreux où ils ont bâti une histoire qui tient pas debout. Et c'est comme un moment quand on disait que Torres avait déserté pour prendre la tête du combat. Même au congrès de Gennevilliers du Parti communiste en 1952, quelqu'un qui a dit que c'était le premier FTP de France. Enfin bon,
oui.
Il y a une mythification. Et pour ma part, moi je prends de la distance. La distance par rapport à Simon, par rapport à ce qui est mon objet de recherche. C'est un objet de recherche, Robert Simon. Je prends de la distance. Je passe au crible ce que dit Simon. Je le mets en rapport avec ce que d'autres disent. Donc j'organise une polyphonie entre différents propos pour tenter d'arriver à théoriser ces questions.
En tout cas, c'est ce que vous faites très bien dans un livre extrêmement riche et qui ouvre des perspectives absolument passionnantes sur notre histoire de France, mais aussi sur l'aspect local, sur Lyon. Je rappelle donc le titre de votre essai, Jean-Yves Boursier, « D'Auxerre à Mauthausen et Prague, le voyage de Robert Simon dans le siècle ». Et c'est aux éditions du Croquant. Jean-Yves Boursier, merci de nous avoir accompagnés au cours de ces deux numéros de Wagon Livre pour revenir sur un aspect de l'histoire de notre pays. Et je me disais qu'effectivement, si Robert Simon pouvait revenir et voir un peu les problèmes auxquels notre pays est confronté, il serait peut-être bien triste.
Je ne sais pas, mais je vous remercie de votre accueil.
Merci Jean-Yves Boursier. C'est la fin de ce Wagon Livre. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. On parlera de la Grande Guerre avec un jeune professeur d'histoire-géographie au Collège des Chaumes d'Avallon. C'est Jean-Charles Gibault qui sera en notre compagnie et nous mettrons en valeur quelques aspects de cette Grande Guerre pour ne pas oublier, parce qu'on essaie dans Wagon Livre de ne pas oublier celles et ceux qui ont été remarquables. C'est pas le tout de poser des petites bougies, de rendre des hommages et tout. Ben nous, on passe, on lit les livres, on reçoit les invités et on essaie de défendre ce à quoi on croit. Voilà. Merci à toutes et à tous. Excellent congé de fin de semaine et à samedi prochain, merci. Toujours 11h sur Radion.
Merci.